temps, contre-temps. Une émission de Canal Academy, Virginia Crespo et ses invités.
Bonjour, Canal Academy vous propose Temps contre temps, une émission basée sur un concept ancré sur deux idées forces, échange et transmission. Temps contre temps propose un temps de rencontre, de partage de paroles entre une académicienne, aujourd'hui Claude Dulon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, historienne, chartiste. En 1995, Claude Dulon est la première femme élue dans la section Histoire de l'Académie des sciences morales et politiques. Spécialiste du XVIIe siècle français, elle a publié notamment Anne d'Autriche, La vie quotidienne des femmes au grand siècle, Marie Mancini, dont il sera question aujourd'hui dans cette émission, ou encore La fortune de Mazarin. Pour partager avec Claude Dulon ce temps de parole, Séverine Le Pape. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Parlez-nous de votre parcours d'études. Vous êtes chartiste également.
Oui, tout à fait. J'ai fait 3 ans de classe préparatoire au lycée Henri IV pour entrer à l'École nationale des chartes, où j'ai suivi une scolarité de 3 ans et parallèlement à cette scolarité, une thèse en histoire médiévale sur l'étude iconographique de l'arbre de Jessé du 14e au 17e en France. Et je me destine à devenir conservateur de bibliothèque. À partir de janvier, j'intègre l'ANSIB.
Qu'est-ce qui vous passionne dans ce travail d'historienne, Séverine Le Pape?
Bien sûr, le contact avec les sources directes, puisque pour envisager l'étude iconographique de l'arbre de Jessé, j'ai réalisé un corpus à la fois réunissant les enluminures, mais aussi les vitraux, parce que c'est un thème qui a été abondamment développé par les artistes. Et ça m'a passionnée de pouvoir être en contact direct, de pouvoir finalement constituer moi-même ce corpus, et puis finalement de se demander comment cette iconographie a pu être perçue et comment elle était en phase avec les débats théologiques très mouvants, notamment autour de la Vierge et de l'Immaculée Conception. Et ce sont vraiment ces aspects-là qui m'ont déterminée à travailler sur le sujet et qui me poussent encore puisque je me suis inscrite en doctorat.
Claude Dulon, comment devient-on historienne? C'est le jeu du hasard?
Alors moi, je sais très bien comment ça s'est passé. J'étais lycéenne et un jour, un professeur d'histoire qui m'avait beaucoup impressionnée, qui était une femme charmante, c'était l'époque où les professeurs avaient du temps, on pouvait leur parler après les cours, etc. Et elle m'a dit cette simple phrase, « Mais vous êtes bonne en latin et vous aimez l'histoire, pourquoi vous ne feriez pas plus tard l'école des chartes ?» C'est la première fois que j'entendais parler de l'école des chartes, et alors ce mot m'est resté. Et quand après avoir fini mes études, je suis allée un jour, comme ça, à l'école des chartes, voir comment c'était. C'était plutôt austère. Mais je me suis dit, après tout, j'ai essayé d'abord de faire une licence de lettres et à la Sorbonne, j'étais perdue. C'est là que je me suis rendu compte que je ne savais pas travailler. Tandis qu'aux chartes, j'ai eu l'impression d'apprendre à travailler.
C'est un métier ou une aventure ?
C'est les deux, parce que le métier peut déboucher sur l'aventure de trouver quelque chose d'inédit qui peut modifier totalement une idée qu'on a eue ou la biographie d'un personnage.
Alors justement, qu'avez-vous trouvé d'inédit dans la vie mouvementée de la plus célèbre des nièces de Mazarin? Je veux parler de Marie Mancini, de laquelle Séverine Le Pape a souhaité parler avec vous aujourd'hui.
Eh bien, j'ai failli ne pas le faire, ce livre, parce que justement, j'ai trouvé de l'inédit sur Marie Mancini. Alors, j'étais ébloui par le nombre de lettres inédites que j'avais trouvées, mais je me suis rendu compte que la personnalité même de l'héroïne n'était pas extraordinaire, n'était pas passionnante. Elle est restée dans l'histoire parce qu'elle a été le premier grand amour de Louis XIV et qu'elle a failli faire échouer la politique de son oncle Mazarin, puisque le jeune roi voulait épouser Marie Mancini et non pas l'infante d'Espagne. Mais au fond, elle ne s'est pas très intelligemment comportée. Mais alors là, j'avais tellement d'inédits que je voulais quand même l'employer. Et puis si tout n'était pas dans cet inédit, il y avait aussi des choses qui n'étaient pas seulement sur elle, mais sur l'Italie de l'époque que je connaissais mal, sur les rapports France-Italie de l'époque, notamment au point de vue culturel, sur ce qu'elle avait pu apporter de France en Italie, ou au contraire apprendre en Italie par rapport à la France. Il y avait toutes sortes de choses qu'on pouvait faire en dehors du personnage elle-même.
Séverine Lepape, qu'est-ce qui vous a passionné dans ce personnage féminin ?
Je pense que c'est, pour moi, elle tranche véritablement par rapport à l'image que l'on peut se donner d'une princesse, puisqu'elle épouse Colonna. Cette truculence, cette façon d'être très indépendante, et notamment dans votre livre, ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'à un moment, vous faites un parallèle entre Marie Mancini et Sissi, Élisabeth d'Autriche, dans cette indépendance, dans cette volonté d'être une femme et de ne pas se plier aux convenances. Est-ce que, justement, ce genre de personnage, d'héroïne, comme vous le dites, n'est pas décisif quand on s'intéresse à l'histoire des femmes ?
Alors, il faudrait savoir si elle a eu conscience elle-même d'être un peu un porte-parole d'un certain féminisme. À vrai dire, j'en suis pas absolument sûr. Elle avait un grand désir de liberté. Elle a beaucoup souffert en Italie de l'espèce de pas de servitude, mais les convenances étaient encore plus fortes qu'en France. On ne pouvait rien faire, et dans le peu qu'elle a fait, elle a contribué à aérer beaucoup cette atmosphère, à ouvrir un salon, ce qui n'existait presque pas, les salons féminins à Rome. Et elle était beaucoup plus cultivée parce qu'en France, étant la nièce du Premier ministre, comme ses sœurs, elle avait eu les meilleurs professeur, elle avait eu des contacts avec les meilleurs salons, elle avait fréquenté beaucoup d'écrivains, elle était à ce point de vue un personnage. Mais je pense qu'elle n'a pas très bien conduit sa vie privée. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, une autre comparaison, c'est que finalement elle a échoué en Espagne après la mort de Colonna, et en Espagne, elle a rencontré quelqu'un qui était la princesse des Ursins, qui, comme vous savez, a fini par gouverner l'Espagne. Et la princesse, et ça m'a beaucoup frappé, j'ai dit, la princesse des Ursins n'avait eu aucune des chances de mari. Son époux avait été disgracié par Mazarin car il avait été frondeur. Elle s'était trouvée en Italie sans argent, sans rien. Saint-Simon dit comme sans être. Eh bien, à force de volonté, d'intelligence, elle a réussi à, je vous dis, en tant que préceptrice d'une petite princesse savoyarde qui allait épouser le roi d'Espagne, elle a été vraiment la régente d'Espagne pendant plusieurs années. Et on voit là toute la différence tout de même que l'intelligence d'une femme pouvait être. Marie Mancini était en Espagne à l'époque, elle aurait très bien pu. Elle était introduite à la cour, elle aurait très bien pu jouer ce rôle. Mais elle ne l'a pas joué parce qu'elle n'avait pas assez de patience, de calme, elle n'a pas été une Maintenon ou une princesse des Ursins, qui, à mon sens, sont les deux plus grandes têtes politiques féminines de l'époque.
Et justement, en parlant de politique, vous avez dit que cette passion entre Marie Mancini et le roi aurait pu mettre en péril, finalement, d'une part, le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse, et donc la paix. Mais on s'étonne du manque, finalement, de prévoyance de Mazarin dans toute cette histoire, puisqu'il semble ne pas s'être rendu compte de cette passion, et quand il s'est rendu compte, c'était trop tard. Il a beau vituperer, dire au roi qu'il était prêt à rendre ses honneurs, dire à Marie Mancini qu'elle n'avait rien à faire de cette histoire, qu'il fallait qu'elle renonce à cette passion. Il semble quand même que ce soit allé très loin, et pourtant Mazarin ne s'est rendu compte de rien, on a l'impression.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai toujours trouvé que Mazarin avait été très lent à réagir dans cette affaire. Alors comment expliquer ça ? Parce qu'on ne peut pas mettre en doute son désir de faire la paix. Et je crois que d'abord il y avait combien ? 6 ou 7 nièces. Il les a introduites à la cour. Elles voyaient naturellement le jeune roi. Mazarin était à ce moment-là extrêmement occupé par les préliminaires des négociations des Pyrénées. Je ne sais pas, je suis comme vous. Je ne peux pas vous donner la solution, mais je trouve qu'il a mis du temps à réagir. Quand il a réagi, il a très bien et très fortement réagi. Et puis Anne d'Autriche, à vrai dire, a dit son mot, elle aussi, quand elle a vu que les choses risquaient d'aller trop loin. Et puis on avait vu Louis XIV tellement tourner autour de filles d'honneur ou autres qu'on se disait, il faut que jeunesse se passe, et que peut-être on n'a pas pensé que celle-là serait plus dangereuse qu'une autre, parce qu'il a courtisé une ou deux autres nièces aussi. mais ça n'a pas duré très longtemps.
Oui, il semble effectivement que la passion qui s'est nouée entre Marie et Louis XIV a été très très inattendue. D'ailleurs, on remarquait très
ça.
Peu Marie.
On n'a pas pensé à une passion, on a pensé à une galanterie, et après tout, autant qu'il fasse la cour aux nièces de Mazarin, il y avait eu déjà une première petite naissance d'idylle avec une qui est devenue, j'oublie son prénom, qui est devenue comtesse de Soissons.
Olympe,
c'est ça. Et Marie était peut-être la moins jolie de toutes, d'ailleurs. Alors, c'est peut-être aussi pour ça, mais elle était plus vive, plus drôle, plus cultivée que les autres. Mais je suis comme vous, il a traîné dans cette affaire, Mazarin.
Est-il vrai que cette histoire d'amour entre Louis XIV et Marie Mancini a inspiré jusqu'à Racine lui-même, pour sa Bérénice ?
Mais oui, vous êtes empereur, seigneur, et vous pleurez. Oh, vous pensez tout ce qui touchait au roi. Corneille aussi, je crois, il y a un vers. Ça a été un grand sujet. La pauvre qui pleurait, Louis XIV qui l'accompagne au carrosse, elle monte dans le carrosse, fondant en larmes, lui aussi fond en larmes. Vous pensez si ça a fait du profit au Gastier et il a continué à lui écrire quand elle était... Vous êtes allé à Brouage dans votre vie ? Oh, il faut aller à Brouage. Alors, on l'a envoyé à Brouage parce que c'était une possession de Mazarin. Alors, à Brouage, vous ne voyez que café Marie Mancini, café Louis XIV. Ça a fait du profit à la ville, en tout cas.
Elle traversa son siècle, écrivez-vous, dans un tourbillon d'aventures et de mésaventures que commentaient toutes les cours d'Europe. On a parlé de cette Marie Mancini.
Ben oui, parce qu'elle a fui Colonna, n'est-ce pas ? Alors vous imaginez déjà fuir un mari italien, hein, même encore au XXe siècle, ça ne se faisait pas, mais alors au XVIIe. Et comme elle était très séduisante, elle a traversé l'Europe, s'arrêtant naturellement dans des cours, où régulièrement les souverains devenaient amoureux d'elle. Alors... Évidemment, ça a fait... On ne s'ennuie pas une seconde avec Marie Mancini.
Et pourquoi, selon vous, a-t-elle fui Rome en 1672 pour...
Parce qu'elle ne pouvait plus supporter son mari. Et puis alors, elle donne une explication qui se rattache peut-être à la condition féminine. Elle avait été 3 fois enceinte en 4 ans, et elle ne pouvait plus supporter ça. Elle ne pouvait plus, peut-être qu'elle avait plus souffert que d'autres, je ne sais pas, mais elle dit que ça avait été très pénible et elle avait demandé à, elle avait dit à son mari qu'elle ne voulait plus avoir d'enfant. Alors évidemment, ça posait un problème difficile à résoudre. Alors il a apparemment accepté, mais il l'a trompée tout le temps.
Et on sent, malgré sa fuite et son errance, qu'elle reste très proche de ses enfants, qu'elle leur donne des conseils, notamment à son dernier fils dans son choix de carrière.
Elle aimait beaucoup ses enfants.
C'est très intéressant parce qu'on se dit finalement, elle fuit, elle abandonne un peu ses enfants, mais pour autant, par sa correspondance, elle continue à être présente et à chercher comme ça à coïncider ce rôle de femme et de mère qui pourtant a lui assemblé à un moment.
Oui, elle a été une bonne mère, mais évidemment, à partir du moment où elle s'enfuyait, elle n'a plus pu voir ses enfants jeunes. Elle les a revus quand ils étaient déjà... Et elle est retournée... Et quand Colonna est mort, elle a pu retourner à Rome. C'était inimaginable. Et Colonna était un homme difficile, alors c'était inimaginable pour lui d'être quitté par sa femme. Il n'avait pas bonne réputation, Colonna. Indéniablement, à sa mort, il y a quelques témoignages de gens qu'il avait connus, ce qui prouve que les craintes de Marie n'étaient peut-être pas entièrement infondées, parce qu'elle a eu peur que son mari la tue à un moment. Je pense qu'elle l'avait aussi pas mal trompé. Et quand Colonna est mort, des témoins qui étaient à Rome, à la cour pontificale, ont dit qu'on pouvait peut-être lui reprocher quelques assassinats à Colonna. Et je crois que sûrement c'était un homme très difficile. Mais voilà la condition des femmes. Même un mari très difficile, on ne quittait pas à l'époque.
Vous parliez de la création de salons. Elle s'est intéressée aux arts, à la littérature.
Ah oui, elle a eu un petit salon. Et justement, à Rome, j'ai trouvé des petits textes, des portraits, des petites choses qu'elle avait été écrites à la manière de ce qu'on faisait en France, et c'était tout à fait charmant. Là, elle a introduit vraiment de la nouveauté. D'ailleurs, elle est partie de France avec toute une petite cour, et un ou deux auteurs mineurs, évidemment, qui l'ont aidée à créer son salon, qui a eu beaucoup de succès à Rome, parce que je crois bien que c'était un des premiers dans l'aristocratie.
Par rapport aux autres portraits de grandes amoureuses à travers les siècles que vous nous avez offerts à travers vos différents ouvrages, comment situez-vous cette Marie Mancini ? Que nous a-t-elle apporté dans l'histoire des femmes, dans l'histoire de l'humanité ?
Je ne crois pas qu'elle nous ait apporté en France rien, parce que justement elle n'y est pas restée d'abord. Mais je pense qu'en Italie, oui, elle a apporté une bouffée d'air frais, surtout qu'elle avait une autre sœur qui l'a rejointe en Italie après d'autres aventures, c'est Hortense, qui était aussi charmante, très belle, intelligente. Elles ont apporté une bouffée d'air frais. Malheureusement, leur vie privée a été telle qu'elles n'ont pas eu la considération que d'autres femmes exceptionnelles ont eu en France, comme Madame de Sablé ou Madame de Lafayette.
Claude Dulon, merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc Marie Mancini, la première passion de Louis XIV, un ouvrage de Claude Dulon paru chez Perrin. Séverine Lepape, merci d'avoir participé à cette émission Temps contre Temps.
Merci.
Et d'avoir donc partagé ce temps de parole avec Claude Dulon. Merci mesdames.